19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez c'est toujours un plaisir. C'est la dernière de la saison, la dernière semaine de la saison. On va se retrouver tranquillement toute cette semaine à palabrer tous ensemble au 01 43 48 3000. Alors au sommaire, pour démarrer cette semaine, nous allons revenir sur plusieurs sujets. D'abord, nous irons en direction les États-Unis où nous allons retrouver le spécialiste de l'Amérique avec Maître Jean-Claude Beaujour qui est notre débatteur influenceur. Il est en ce moment aux États-Unis et il intervient. Il est 13h précisément là-bas et on va revenir sur l'assaut du Capitole. Oui, Trump qui est accusé d'avoir tenté un coup d'État. Oui, bon. Oh ben, on va en parler avec notre spécialiste. Ensuite, au menu, avec Pierre-Henri et Nadir Kaya, eh bien, nous reviendrons sur le pouvoir d'achat, les amis. Oui. Alors, certains défendent la hausse des salaires. D'autres parlent de primes d'achat. Comment les entreprises peuvent s'adapter, augmenter, hein, à la fois avec, évidemment, la croissance d'un côté, la masse salariale de l'autre. Et ça tombe bien, Nadir Kaya est aussi représentant syndical. Donc on va tenter de comprendre avec lui comment essayer de s'arranger à la fois pour trouver un compromis. Aussi, autre sujet, vous savez, c'est le PS. Alors, paraît-il qu'une déclaration avait été lâchée par Stéphane Le Foll. Ça se passait au JDD. C'était il y a 2 ans. Alors, je ne sais pas s'il a changé d'avis. Souvenez-vous, il avait dit le PS doit s'effacer au profit des Verts. Il avait dit aussi que, bon, plus récemment, c'était fin avril. Le PS est mort, il est fini. Clochette. Alors, est-ce que c'est vrai? Nous allons comprendre. Est-ce qu'il peut se relever, le PS? Est-ce qu'il peut se remettre sur pied? Est-ce qu'il peut tenter d'exister dans ce nouveau monde? L'Ukraine est en train de lever une armée d'1 million d'hommes. Effet de communication ou simplement réalité ou un véritable coup de bluff? Clochette. Blé, gaz, oui, entre inquiétude sur les livraisons, mais aussi sur les céréales. Que doit-on faire? Comment agir? Puisque l'inflation prend de l'ampleur. Et puis, vous savez, ce sujet qui est cher à Emmanuel Macron, il y tient. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, paraît-il qu'il tient à son petit bébé, le Conseil National de la Refondation. Mais derrière ce mot, qu'est-ce qu'on y met? C'est une coquille vide ou c'est des éléments qu'on met comme ça pour brouiller les pistes, clochette. Ah, oui, bon, vous connaissez évidemment les informés. Hein, on dit tout en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, c'est parti, vous le savez tout de suite. Direction les États-Unis avec notre invité, Jean-Claude Beaujour. C'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Maître Jean-Claude Beaujour. Vous êtes aux États-Unis en ce moment. Bonjour, Maître.
Bonjour, Adil.
Comment
Bonjour
ça va
à tous.
Comment ça se va? Comment ça va aux États-Unis? Vous savez, on est en train de vivre la canicule, 40 degrés à Paris. Vous êtes où aux États-Unis, vous?
Écoutez, à Washington, il fait un tout petit peu moins chaud, mais il fait quand même très chaud. Mais vous savez, ici aux États-Unis, nous sommes habitués à la canicule et habitués à gérer la canicule. Je me souviens que j'étais effaré, je crois que c'était au début des années 2000, lorsque le président Chirac était président et qu'il y avait M. Mattei qui était ministre de la Santé. J'étais surpris de voir qu'en France, on n'arrivait pas à anticiper la canicule. Ici, ça fait 30 ans,
Clochette,
40
vous,
ans.
Vous êtes en train de tacler la France, c'est ça?
Non, mais ce sont des choses qui sont assez habituelles ici. Par exemple, les gens vont aller dans les supermarchés à mi-journée. Moi, je me souviens que j'étais jeune à New York où le maire de New York
disait
aller dans les supermarchés, c'était il y a très longtemps. Vous voyez, j'étais jeune à l'époque. Aller dans les supermarchés, etc. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas encore ces habitudes en France, mais ça va venir parce que malheureusement, les choses ne vont pas s'arranger. Et qu'il va falloir qu'on apprenne, qu'on anticipe des mesures simples, qu'on apprenne à s'équiper, ouais, qu'on apprenne ouais. à s'organiser. Voilà, c'est un petit peu cela. Mais enfin, bon, il fait très beau, très orageux parfois le soir à Washington.
Eh bien, écoutez, nous, on échappe aux orages pour le moment, mais en tout cas, le Sud connaît évidemment. J'imagine que vous suivez l'actualité de terribles incendies. Hein.
Absolument.
Évidemment, vous le suivez, je pense, l'actualité. Allez, on va parler de Trump. Trump, avec évidemment l'assaut du Capitole, vous le savez, Maître Jean-Claude Beaujour, vous qui débattez ici, vous êtes le spécialiste des États-Unis. Est-ce qu'il est vraiment accusé d'avoir tenté un coup d'État, Donald Trump?
Alors, je vais vous répondre ce que j'ai déjà répondu. vraiment, on n'en sait rien parce que justement, on est dans une enquête et c'est l'enquête qui déterminera éventuellement, parce qu'il s'agit d'une enquête parlementaire, il ne s'agit pas d'une enquête judiciaire, j'insiste sur le fait, et ça n'est qu'au regard des résultats de l'enquête, éventuellement, des juges fédéraux ou un certain nombre de poursuites pourraient être engagées contre l'ancien président. Juste peut-être deux mots pour qu'on comprenne.
Bien sûr. Oui, on a besoin de comprendre.
On se souvient que lors de l'élection de 2020, le président Trump avait dit avec ses équipes « l'élection nous a été volée ». Il y a eu un certain nombre de recours, il a fait des recours contestant les résultats d'un certain nombre de scrutins dans certains États. L'ensemble des recours ont échoué jusqu'à la date de décembre. Mmh. Le 6 janvier, ce qui s'est passé, c'est que le 6 janvier, il y a toute une procédure, vous savez, il y a ce qu'on appelle une procédure de comptage, de certification des votes, qui est une procédure purement, entre guillemets, administrative que valide le vice-président. Le vice-président était M. Pence et c'était son vice-président républicain comme lui. Et donc, le 6 janvier, des partisans de Donald Trump s'étaient réunis aux alentours de la Maison-Blanche pour pouvoir soutenir leur candidat, arguant du fait que l'élection aurait été volée et qu'il fallait faire quelque chose. C'est très important parce que pour la suite, ça va avoir de l'intérêt. Et à ce moment-là, les partisans sont par la suite partis au Capitole. Ils ont envahi le Capitole et ce qui est reproché, c'est qu'en non seulement ils ont envahi le Capitole armé, blessant des policiers, menaçant la sécurité au point où on a
envahi le Capitole. Vous parlez du 6 janvier 2021.
6 janvier 2021, on a dû évacuer le vice-président. Le point dans cette histoire, c'est que les déclarations du président Trump n'allaient pas dans le sens de l'apaisement. Ce sont des déclarations un petit peu générales. Et pour qu'on comprenne vraiment le travail qu'a fait la commission, en tout cas sa démarche, ça a été de savoir, un, est-ce que le président savait qu'il y avait un risque de manifestation, voire d'invasion du Capitole. Première chose, est-ce qu'il savait qu'il y avait ce risque? Deux, une fois qu'il a su, est-ce qu'il a tout fait pour mettre un terme à cette démarche? C'est ce qu'a essayé de savoir la commission. Et ce qui ressort, donc on vient maintenant aux conclusions, enfin à l'avancée de la commission qui a auditionné un certain nombre de gens, ce qui ressort, c'est que le président a été alerté sur ce risque à tout le moins. Cela ressort d'audition, y compris d'Ivanka Trump, y compris de son gendre, le gendre du président, y compris du special counsel, c'est l'équivalent du conseiller juridique de la Maison-Blanche, et du ministre de la Justice eux-mêmes. On dit au président deux choses. Deux, il n'y avait pas de fraude suffisamment massive, quel que soit ce qu'on peut en penser, pour que l'étendue de ces fraudes puisse changer le résultat du scrutin, en conséquence de quoi il devait reconnaître qu'il était battu, assurer une transition passive. Il semblerait que c'est ce qu'aurait dit l'entourage.
Sauf que maître Jean-Claude Beaujour, il y a des images quand même qui sont sorties, des images inédites, qui montrent bien qu'il y a une ultra-violence de l'assaut du Capitole et le rôle de Donald Trump.
Alors, c'est le président lui-même, là. Je dis ça parce qu'il faut, évidemment, vous imaginez très bien, je prends de la distance, j'essaie de raisonner comme avocat et pour que les choses soient faites avec suffisamment de cohérence. Le président lui-même n'a pas participé. C'est important. En revanche, effectivement, l'assaut, vous savez, ce sont les Proud Boys. Ce sont des gens qui sont quand même, qui se qualifient comme étant des western chauvinistes. Je ne sais même pas comment en français on peut dire ça. C'est l'Amérique blanche, protestante, fière de pouvoir porter des armes, qui veut absolument pas. Alors c'est caricatural, mais c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait déterminer les Proud Boys. Qui sont aussi impliqués dans des manifestations violentes, qui participent, qui font preuve de... ils ont quand même une rhétorique anti-féministe et anti-islam, anti-musulmane. Enfin, voilà, si on devait caricaturer, je dis bien qu'il faudrait plusieurs heures pour en parler, mais c'est grosso modo, c'est un petit peu cela qu'on pourrait dire. Donc c'était très violent. Et donc le sujet, parce qu'il faut revenir au droit, le sujet pour la commission, c'est de savoir, d'un côté, il y a ces gens qui, pour certains, ont été sanctionnés hein, par la justice. Il y a ces gens qui ont participé à l'assaut du Capitole. Ça, c'est condamnable. La question est de savoir, est-ce que le président peut être considéré comme directement ou indirectement.
Alors, il a dénoncé, alors l'ancien président américain Donald Trump a dénoncé une parodie de justice. Ça veut dire quoi, une parodie de justice? Comment l'interpréter?
C'est une réponse politique à un sujet. C'est-à-dire que quand on ne veut pas répondre, on dit que c'est une parodie de justice. C'est-à-dire qu'on dit je ne fais pas confiance, je ne reconnais pas à l'organisation en question le droit d'examiner mes faits. Bon, cela étant dit. Alors, c'est la justice, de toutes les façons, au terme de cette commission, c'est la justice qui éventuellement se saisira, engagera ou non des poursuites si elle estime que les éléments sont suffisamment.
Comment vous, personnellement, avocat, vous voyez les choses, Maître Beaujour?
Il y a, là encore, et la raison pour laquelle je vous ai dit que je ne peux pas dire que Donald Trump est responsable ou pas, c'est que quand on est juriste, on a accès à l'issue d'un procès, qu'on peut dire, voilà, tous les éléments sont sur la table, toutes les enquêtes sont sur la table, et voilà le parti que l'on prend. Pour l'instant, on n'y est pas encore. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a malgré tout des éléments extrêmement troublants. Moi, j'ai entendu le ministre de la Justice, j'ai entendu Pat Cipollone, qui est le White House Counsel au moment des faits. Et je parle c'est un poste, vous savez, le poste d'un juriste, en tout cas les avocats aux États-Unis, c'est vrai partout, mais encore plus aux États-Unis, il y a des règles éthiques qui sont telles que l'avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone, a donné un certain nombre d'informations au président. Donc, il ne peut pas venir mentir. Vous savez, il a quand même une carrière, c'est quand même un homme établi qui est patron aujourd'hui associé d'un très grand cabinet d'avocats avec des revenus de 7 millions de dollars. Il ne va pas venir mentir devant la commission. Vous imaginez que il pourrait se voir radier du barreau si on venait à découvrir qu'il mentait, qu'il avait menti. Donc, il a donné des informations suffisamment claires et il a expliqué comment certaines personnes, il y avait vraiment une bataille au sein des équipes de la Maison-Blanche. Il y avait même...
Et c'est vrai, comme le rappelle Nadir Kaya, Clinton avait menti à l'époque, effectivement.
Oui, non mais attendez, ça c'est bien sûr, et ça a gâché ça. Clinton a menti sur un fait pour lequel il aurait pu dire « je n'ai pas à parler » et ça a gâché sa deuxième présidence. Mais je reviens, ici on parle de risque de coup d'État. Ouais. On n'est pas, c'est une chose que d'avoir une relation...
C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose.
Quelle que soit la valeur morale qu'on peut...
On parle de coup d'État.
Quel que soit le regard moral qu'on peut porter sur Bill Clinton, on ne parle pas de la même chose. Là on parle d'un risque d'une tentative ou de risque, ou s'il y avait eu tentative, en tout état de cause, les institutions ont résisté, mais à quel prix? Je vous dis, le Capitole, on a dû évacuer le vice-président. Et là-dessus, le special counsel de l'ancien président Trump a dit qu'il y avait des rivalités au sein de l'équipe. On a même eu des gens qui voulaient aller saisir les boîtes d'un certain nombre d'instruments de vote. Qui voulait. Voilà. Donc, il y avait une bataille pour, un, le respect de la loi. D'autres avaient une position plus politique. Et c'était intéressant cette semaine parce que j'ai suivi cette semaine certaines auditions. Il y avait vraiment une bataille entre ceux qui étaient les tenants de la justice et de l'état de droit, face à ceux qui avaient une position politique avec des formules du genre « mais on sait bien qu'on nous a volé, de toutes les façons, tous les recours étatiques ont échoué, mais ces gens-là sont corrompus ». Voilà, l'argument pour certains, c'était de dire que s'ils ont perdu les recours, puisque je viens de vous dire qu'il y a eu des recours entre le mois de novembre 2020 et décembre 2020 au moment de l'élection, l'argument c'est de dire ben, tous les magistrats étaient corrompus. Y compris ceux qu'avaient nommé les républicains eux-mêmes. Vous voyez un petit peu. Donc il y a eu une vraie rivalité. D'un côté, il y avait une position ultra politique, la fin justifiant les moyens. De l'autre côté, il y avait des tenants de l'état de droit avec je vous dis, M. Cipollone ou bien M. Barr.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Maître Jean-Claude Beaujour, spécialiste des États-Unis. Ça va, tout se passe bien pour vous, là, dans les heures, dans les jours, dans les semaines à venir?
Mais écoutez, on a beaucoup de travail, c'est déjà pas mal.
Bon courage en tout cas. Bon courage. Vous prenez des vacances
merci
un
beaucoup.
Peu cet été?
vraisemblablement au mois d'août.
Bon,
mois d'août.
Écoutez, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances,
belle
et au plaisir de vous retrouver sur le plateau. À la rentrée.
L'ensemble de vos auditeurs, à bientôt. Merci pour votre invitation.
Merci donc Maître Jean-Claude Bougeour qui était avec nous depuis Washington où il est 13h14 précisément. Tout de suite, je vais accueillir les débatteurs. Pierre-Henri, bonjour, le patron de France Fraternité. Comment ça va?
Plutôt bien.
Plutôt
bonjour.
Bien.
Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Beurre FM.
Absolument. Le président de Banlieue Plus, bonjour, Nadir Kaya.
Bonjour.
Tirez le micro devant vous. Bien.
Bonjour,
n'hésitez pas, prenez. Voilà. Eh bien, messieurs, on se retrouve tout de suite après pour parler quoi? Pour parler du pouvoir d'achat. Ça vous va?
Bah,
on est en plein
d'actualité. Pouvoir d'achat.
Bruno Le Maire s'est exprimé tout à l'heure à l'Assemblée.
On le cherche, le pouvoir d'achat.
Ah, on le cherche, j'aime bien. Aïe, 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 à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
C'est parti, chers amis, pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Vous au 01 53 48 3000, hausse des salaires, prime du pouvoir d'achat. Comment, justement, à la fois, les entreprises peuvent-elles augmenter le pouvoir d'achat de leurs salariés? Parce que ça commence à grogner. Elisabeth Borne qui a appelé toutes les entreprises qui peuvent le faire, augmenter leurs salariés. Mais bon, après, s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas augmenter les salaires. Mais on répond, certains rétorquent, comme certains syndicalistes, eh bien les primes de pouvoir d'achat. Pierre-Henri.
Oui, alors...
Et Bruno Le Maire était dans au sein de l'hémicycle tout à l'heure.
On va parler beaucoup de pouvoir d'achat ces jours-ci.
Bah, ça grogne.
Puisque je vous rappelle qu'il y a une loi, pouvoir d'achat, qui est en train d'être discutée au
en
Parlement.
Ce moment même.
Et qui comporte une vingtaine d'articles. Et parmi cette vingtaine d'articles, il y a un certain nombre de mesures qui sont celles de la revalorisation de 4% des pensions de retraite, des prestations sociales, l'augmentation de 3,5% des salaires de la fonction publique, le blocage, un chèque alimentaire sous condition de ressources de 100 euros, etc., auquel s'ajoute 50 euros par enfant. Il y a la prolongation de la remise carburant de 18 centimes du bouclier tarifaire sur l'énergie, la suppression de la redevance audiovisuelle. Bref, toute une série de mesures qui ne sont pas anodines parce qu'elles coûtent 20 milliards d'euros au budget de la nation. Alors, à partir de là, il va y avoir un certain nombre de discussions sur le fait de savoir si, par exemple, le triplement de la prime Macron est préférable ou non à l'augmentation des salaires. Moi, ce qui me surprend toujours dans ces débats, c'est que on oublie toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'emploi. Parce que la première mesure...
Même si les syndicats et patronats se réunissent.
Oui, mais la première mesure de pouvoir d'achat, c'est d'abord d'avoir accès à un emploi. Oui. Si tu n'as pas d'emploi, ça pose tout de même un vrai souci.
Bon, ça tombe bien, vous avez un représentant des syndicats.
Oui, les syndicats font...
Ils font aussi leur boulot. Ils se réunissent avec les patronats.
Ils sont utiles à la démocratie, font partie intégrante de la démocratie.
Vous dites quoi, Nadir Kaya?
Non, mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'il y a de la démagogie dans tous les camps, que ce soit au niveau de Macron ou de son opposition à travers LFI, les Républicains ou le Rassemblement National.
Ah bah voilà, Pierre-Henri.
Chacun vient avec des éléments et des propositions, et notamment avec l'appui d'économistes ou de spécialistes qui vont dans leur sens. Donc en fin de compte, c'est difficile à comprendre un petit peu qui a raison ou qui a tort, parce que chacun vient donc avec ses arguments, et c'est très compliqué, parce que, quelle que soit la proposition des uns et des autres, en fin de compte, à un moment donné, il va falloir payer.
Comment vous voyez les choses? Vous dites quoi, vous?
Non, mais l'idéal...
Les 01, 53, 48, 3000, j'aimerais entendre certains auditeurs, justement.
C'est un consensus de la part de tout le monde, mais en politique, comme au niveau des syndicats, c'est très compliqué, parce qu'il y a souvent des guerres d'idéologie, mais surtout des guerres d'égo. Mmh. J'ai entendu encore tout à l'heure récemment des députés de la majorité dire « Oui, écoutez, on propose une loi qui est quand même intéressante pour l'ensemble des Français, mais faudrait qu'on tombe tous d'accord dans l'intérêt des Français ». Ça aussi, c'est de la démagogie.
Non, c'est pas de la démagogie.
Non, mais
c'est du commun.
Non, mais
c'est normal.
C'est normal de dire ça, mais politiquement, c'est très bien que c'est pas possible.
Mais enfin, si à la fin de la semaine,
c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à cette crise.
Le projet de loi, qu'est-ce qui se passe? Les Français.
Je vous dis que ça va cogner dur.
Les Français vont se dire quoi? vont se dire qu'ils ne sont pas protégés. Mmh. Et bien sûr qu'il faut un accord. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui fait 20 milliards. Bon, il faut écouter les oppositions. Mais si écouter l'opposition, c'est par exemple de dire qu'il faut mettre
C'est argument contre argument. C'est
qu'il faut mettre le litre d'essence à 1,50 €. Ça, c'est facile, sauf que ça coûte
bien sûr,
près
parce que
de 80
milliards. On réduit la taxe que le gouvernement est censé récupérer, mais il va récupérer à un moment donné quelque part.
Oui.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Il faut payer.
Il est là le souci. Quel que soit le parti politique ou les oppositions, chacun vient avec son expertise et donc son idée qui serait la meilleure selon la situation. C'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas avoir un consensus dans le sens où on va dire c'est dans l'intérêt des Français.
Il y aura forcément un compromis parce que qui va prendre la responsabilité de faire échouer le texte à l'Assemblée
aucun
nationale.
Parti, c'est connu.
Personne. Donc vous êtes en train de nous dire que les négociations ne vont pas aboutir.
Je ne dis pas ça, moi je ne suis pas devin. Si.
C'est ça bah, c'est ce que vous êtes en train de nous laisser entendre.
Non, moi je laisse entendre, c'est très compliqué d'être tous d'accord, parce qu'en politique, malheureusement, le fait politique, il est comme ça. Même si vous avez votre opposant qui
propose une loi intéressante
et dans l'intérêt du peuple, par idéologie, par position différente, il va pas reconnaître que la proposition peut être intéressante.
Ce n'est pas ce qui va se passer. Il y aura forcément un compromis. Il y aura un vote majoritaire sur
J'imagine que le gouvernement là est en train de chercher un allié pour avoir cette fameuse majorité.
Des alliés. Moi, j'attends. Alors, je vois par exemple la position du Parti socialiste qui réclame une conférence salariale. C'est extraordinaire. Je n'ai même pas entendu les syndicats réclamer cette conférence salariale. Pourquoi pas ? Ça peut être une très bonne idée. Sauf que les partis politiques qui se mettent à la place des syndicats. Je vais par exemple prendre Mélenchon qui depuis se prend pour le grand leader syndical et qui appelle même à la mobilisation sociale. Chacun son rôle. Donc, le Parti socialiste, que va-t-il faire ? Il va voter ces mesures qui ne sont quand même... Et au passage, 3,5% d'augmentation de la fonction publique, ça ne s'était pas vu depuis 5 ans.
Alors, on fait quoi ? Prime Macron, revalorisation des salaires. Le gouvernement, par exemple, lui, il va mettre sur la table pour augmenter les revenus. On fait quoi ? Non, mais sincèrement, et je comprends à la fois ce que dit Nadir Kaya, ça va être compliqué d'ici les semaines qui arrivent. Non, mais c'est vrai.
On n'est pas nous-mêmes des experts. Et les experts eux-mêmes, il y a toutes sortes d'experts. Il y a des experts qui vont aller avec LFI.
Non, mais la majorité des TPE, PME, ils peuvent pas augmenter les salaires. Vous disent qu'il n'y a pas assez de perspectives de croissance.
Le pouvoir d'achat aujourd'hui, il recule. Il y a de plus en plus de Français qui sont pauvres. De plus en plus de Français qui ont du mal à vivre. C'est ça, la réalité, elle est là. Donc on sait qu'au niveau du Parlement ou de l'Assemblée, ces gens-là vous disent devant l'antenne ou devant les micros, on va faire en sorte de trouver une solution pour les Français, mais c'est pas vrai, c'est du pipeau, parce que si c'était le cas, ça aurait été réglé depuis des années.
Je ne crois pas.
Donc aujourd'hui en 2022,
ils sont nombreux à le penser. 01 53 48 3000, venez donner votre avis. Je vous attends au standard.
Surtout quand on n'oublie pas ce qu'a fait Macron avec Pierre-Henri.
Alors pourquoi vous y croyez pas ?
Mais je trouve ce discours extrêmement dangereux parce que finalement, il participe à l'idée que les politiques ne servent à rien. Or, les politiques, nous les élisons. Et même s'il y a très peu de gens qui
participent. Par défaut souvent.
Mais si vous dites Nadir Kaya qu'ils sont à côté de la plaque, vous l'entendez ? Ils sont déconnectés de la réalité.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont déconnectés de la réalité. Ça ne veut rien dire. Il y a... éventuellement des propositions qui sont déconnectées de la réalité. Moi, si je veux être populaire, je vais vous dire, mais pourquoi donc mettre le litre d'essence à 1,50 €? Mais non, moi je veux 1,20 €. Bien sûr, sauf qu'il y a un marché mondial.
Après, il faut expliquer,
pétrole, qui fait que
on est dépendant des fluctuations d'un certain nombre d'échanges et d'achats du pétrole.
Ce que je dis, c'est qu'il faut tout simplement d'abord trouver un compromis, puis penser à autre chose. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe particulièrement, c'est le projet de loi sur l'assurance chômage. Parce que toutes les mesures pour revenir vers l'emploi. Parce que je répète, la première mesure de pouvoir d'achat pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est d'en trouver un. Hein? Parce que ceux qui ont un emploi, qui sont d'une certaine manière protégés.
Oui, mais pas à n'importe quel prix. Parce que si je peux me permettre, Macron s'est vanté à ce niveau-là d'avoir fait baisser le chômage.
Oui.
Mais il faut rappeler que la plupart des emplois qui ont été créés ces dernières années sont des temps partiels. Moi, je le vois notamment dans mon entreprise.
Il n'y a pas que des temps partiels.
Bah, c'est principalement des temps partiels. Et malheureusement, en dessous de moins 1000 euros, on ne peut pas vivre. Donc se satisfaire de ça, c'est hypocrite de la part d'un politique de premier rang.
Je ne me satisfais pas de ça, mais l'ubérisation.
Mais je parle du gouvernement.
Mais l'ubérisation que certains dénoncent de la société française, ce n'est pas vrai. Il y a 25 millions d'emplois en CDI aujourd'hui dans ce pays.
Alors oui, certes, les loyers ont augmenté, le pouvoir d'achat a baissé.
Je ne dis pas le contraire.
Mais ce n'est pas suffisant de tenir juste ce propos. Il faut aussi avoir une vision globale sur la société. Mais
merci, j'essaie
si
d'avoir une...
Donc si je comprends bien, ça va être compliqué dans les prochaines semaines. Au Parlement, en réalité, les négociations vont être tendues.
Il faut arriver avant le 7 août.
C'est demain.
Oui, c'est demain. Et donc, on saura avant la fin de la
semaine. Vous avez entendu les échanges à l'Assemblée?
Ah, mais les échanges à l'Assemblée, c'est hallucinant. Cette classe politique que nous avons aujourd'hui.
Donc, finalement, il a raison. C'est ce que je disais, parce que même si chacun vient avec des bonnes idées, le fait d'être opposant, pour certains, n'accepteront pas la
politique. Donc, on va avancer, mais comment?
C'est ça qui est violent en politique.
Mais parce qu'il y aura à la fin, je pense qu'il y aura une majorité. Mais moi, je regrette le tour que prennent les débats à l'Assemblée nationale avec une montée aux extrêmes permanente. On polémique surtout. En polémique surtout. Et quand je dis on, je vais dire très clairement l'opposition LFI aujourd'hui a un comportement qui est absurde et qui déploie un tapis rouge, y compris pour le Rassemblement national.
Vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'on fait? Vous syndicat, vous vous dites quoi? Prime Macron ou non, mais là, revaloriser le salaire?
Quand tu dis syndicat, moi c'est un peu compliqué parce que moi je suis pas un syndicat affilié à la gauche ou à un parti politique. Je suis un syndicaliste, un petit syndicaliste qui localement s'est présenté sur une liste, certes CGT, mais je suis pas politisé au point d'avoir été absorbé idéologiquement ou politiquement par rapport à des principes de certains grands partis
de
politiques.
Doctrine. J'ai
moi,
bien
je fais
compris.
Les choses de façon assez simple.
Alors,
notamment par rapport aux collègues et à
vous,
ce qu'on vit notamment localement.
Qu'est-ce qu'on prône? La prime ou la hausse des salaires?
Non, mais même là, c'est compliqué. Moi, je suis pas pour les primes. Parce que quand on te propose des primes, c'est qu'à un moment, on n'a pas été capable de faire des vrais choix, c'est-à-dire augmenter les salaires. Mais là aussi, on tombe dans un mécanisme qui est compliqué. Si on augmente les salaires, tout le monde ne peut pas le faire, parce que c'est au cas par cas. Il y a des sociétés qui peuvent effectivement, peut-être, augmenter les salaires, d'autres qui ne peuvent pas. Là aussi, parce qu'il faut remplir le carnet.
Et c'est la majorité.
Le carnet de commandes, et ainsi de suite. C'est très compliqué comme ça. Donc, d'avoir des réponses comme ça brutes, c'est impossible. C'est du cas par cas. Mais moi, ce qui me désole, c'est qu'on n'a pas été capable d'anticiper ça depuis des années. Donc là, en fin de compte, quelque part, on a un petit peu les pompiers, qui voulons malheureusement, je fais un petit peu le parallèle avec l'actualité dans le sud, éteindre un feu qui est pratiquement impossible d'éteindre avec les moyens que ont les pompiers depuis des années. Là aussi, on arrive un peu trop tard. C'est toujours pareil.
Pierre-Henri.
Alors, les primes, je rappelle que le danger, c'est la désocialisation des primes. C'est-à-dire que, évidemment, on a à la fois une défiscalisation, on ne paye pas d'impôts, et une désocialisation de la plupart des primes, c'est-à-dire on ne verse pas aux différents régimes de retraite, de sécurité sociale, etc., qui représentent notre bouclier social. Donc à la fois, oui aux primes, quand c'est possible, mais attention à cette désocialisation, parce que le jour où on demandera aux Français d'avancer, par exemple, leurs frais pour hospitalisation, là, ça va un petit peu moins rigoler et on va comprendre
sur les retraites.
ce que c'est que le système social français que nous devons à tout prix protéger.
On reviendra sur ce second sujet, parce que j'y tiens, il faut qu'on avance. Stéphane Le Foll, bon, poids lourd hein, du PS, du Parti Socialiste. Il dit le PS est mort, il est fini. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que, bon, rappelons que Stéphane Le Foll, il est le maire du Mans. Il dresse un bilan quand même très sévère, hein, à la fois de cette campagne présidentielle, mais aussi à la fois aussi de ses législatives.
Il s'inclut.
Et il considère que les choses sont mortes. Après, il parle aussi de cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, effectivement. Est-ce que on peut imaginer un jour, effectivement, le redressement du Parti Socialiste. À quel prix? Comment? Est-ce qu'il ne faut pas un nouveau visage? Est-ce que le Parti Socialiste ne doit pas être incarné avec une nouvelle figure, un peu mitterrandienne, comme voilà, à l'époque?
Ça prendra du temps.
Ça prendra du temps.
Ça prendra du temps, mais je rappelle qu'aujourd'hui...
Ça fait 20 ans.
Oui, mais je rappelle...
20 ans? Non, c'est pas du temps, 20 ans?
Non, ça fait pas 20 ans. Ça fait pas 20 ans, je rappelle que François Hollande, quand il arrive au pouvoir en 2012, il a la majorité, évidemment, puisqu'il
est... Il a la majorité partout.
Il a la majorité partout.
Au Sénat et à l'Assemblée.
À l'Assemblée.
Les deux.
C'était il y a 10 ans.
Et il s'est mis une balle dans le pied tout seul.
Oui, c'était... il y a 10 ans, et donc manifestement...
Alors pardon, il y a 10 ans.
Oui, il y a 10 ans, et donc il a terminé en ramenant la gauche et le Parti Socialiste à un niveau vraiment terrible. Bon, ensuite, Le Foll est dans une certaine opposition, c'est la bataille de courant assez classique à l'intérieur.
Mais bon, c'est un poids lourd.
Ce qu'il en reste, des poids lourds.
Je pense que
ce qu'il en reste, des éléphants.
C'est un éléphant du Parti Socialiste, Le Foll.
Le problème, c'est qu'il faut refonder une idée social-démocrate qui soit social-démocrate, écologique, républicaine, qui rassemble autour le grand... Mais le grand problème aujourd'hui...
Je vous ai répondu, vous avez dit ça s'appelle l'ANUPS. Ah
ben, ça s'appelle l'ANUPS. Oui, sauf que pour la première fois, le Parti Socialiste est minoritaire, est obligé de se... pour sauver un certain nombre de sièges, de se rallier à la LFI. Mmh. Et cette gauche-là... n'a pas très envie de gouverner. Elle est dans l'opposition permanente. Mmh. Elle est dans la conflictualisation de tout, quel que soit le sujet, quel que soit le moment.
Pourquoi ?
Pardon ?
Pourquoi ?
Eh ben, pourquoi ? Parce que idéologiquement, ils pensent que en conflictualisant, ils réussissent à cliver et que à un moment donné, pourront être majoritaires. En réalité, il faut de l'opposition systématique. Et donc, ce qui est
la politique française,
ce qui est quand même particulièrement gênant, c'est qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, qui a sauvé une trentaine de sièges, soit totalement inféodé. À la LFI. Alors combien de temps ça va durer ? Parce que il y a un certain nombre de jeunes députés qui sont très talentueux. Je pense à Boris Vallot, dont on va entendre parler.
Qui est le président d'ailleurs.
Qui est le président du groupe parlementaire et qui est très très habile. Le problème, c'est de faire revenir le Parti Socialiste dans une situation majoritaire. Mais pour ça, il faudrait peut-être.
Il est dans cette démarche, lui. Hein.
Mais il faudrait que les socialistes cessent de fustiger leur électorat, qui pour beaucoup est parti vers Macron en 2017, et de les regarder comme des traîtres. Parce que si le rassemblement, ça commence par traiter le voisin de traître, ça va être un petit peu compliqué. Donc il y a du boulot.
Donc il y a du boulot. Nadir Kaya, je vous retrouve juste après la pub. D'accord ? Et on vous entendra effectivement sur le Parti Socialiste et vous avez beaucoup à dire justement sur ce sujet. 01 53 48 3000, vous aussi, si vous avez envie de vous exprimer, c'est le lieu, c'est Les Informés et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Nous sommes ensemble dans Les Informés. 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Vous nous dites si vous considérez que le Parti Socialiste est mort, tout simplement, ou est-ce qu'il peut renaître, se réorganiser. Nadir Kayati, on ne l'a pas entendu face au point de vue émis tout à l'heure par Pierre-Henri.
Oui, non, mais Pierre-Henri a dit des choses très justes. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question politique. Je suis un Français lambda et qui voit les choses avec un œil distant, mais bon, intéressé quand même. Moi, je dirais pas que le Parti Socialiste est mort, parce qu'en politique, on l'a très bien vu avec Macron. Tout le monde disait que la gauche et la droite, c'était fini. Mais on s'aperçoit que c'est pas tout à fait le cas, même si c'est vrai que la gauche est dans un état plus complexe que la droite. En politique, il suffit parfois d'avoir une bonne personne, un bon timing avec l'actualité ou une certaine situation pour pouvoir renaître de ses cendres et pouvoir peut-être porter une idéologie de gauche ou de droite. Moi, l'état du Parti socialiste aujourd'hui, je vais pas pleurer dessus, hein, c'est ce que je te disais, moi j'ai un rapport.
Il a droit à une clochette, lui. Hein.
Avec les quartiers
populaires. Pourquoi vous voulez pas, oui, pourquoi?
Avec les quartiers populaires, et notamment, je te disais, ça a pas commencé avec François Hollande, mais ça avait commencé déjà avec Monsieur Mitterrand, qui avait fait des fausses promesses aux quartiers populaires et aux Français issus d'immigration, ou à l'immigration, notamment sur le vote des.
Qu'est-ce que vous ne nous dites pas là, que le Parti socialiste a détruit les quartiers populaires?
Bah, il s'est détruit directement parce que il était censé porter un combat notamment sur la justice sociale, et on s'est aperçu que il y avait une certaine gauche caviar.
Que nenni.
Ouais, une gauche caviar qui a pris le pouvoir et qui s'est installée au fur et à mesure du temps, et qui avait délaissé ces fameuses classes populaires, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup ne votent plus ou vont pour certains dans les votes extrêmes. Donc ce constat-là, il est aussi en partie...
Vous êtes en train de dire aujourd'hui que le Parti socialiste a abandonné. Donc si la République n'est plus du tout dans les quartiers populaires, c'est à cause notamment du Parti socialiste.
Ah oui, la gauche, historiquement, c'est une réalité. Moi, je suis pas spécialiste, mais s'il y a des spécialistes qui peuvent démontrer autre chose, moi, je rappelle qu'historiquement, dans les quartiers populaires, ceux qui ont fait le plus de mal aux quartiers populaires, c'est-à-dire aux enfants issus de l'immigration, à nos parents et à nous-mêmes en tant que Français, pour certains binationaux, il y a une double nationalité, donc une double culture, la gauche nous a vendu du rêve pendant des années. Il y a encore aujourd'hui des restes, notamment d'un point de vue paternaliste, où vous avez encore une certaine gauche comme LFI, moi je le dénonce, la NUPES et tout ça, pour moi c'est la même chose, idéologiquement, c'est des gens qui se positionnent.
Et pourtant LFI, ils ont été nombreux à voter pour NUPES.
Oui, parce qu'il y a eu des tractations, voilà. Il faut le savoir, dans les quartiers populaires.
Alors, c'était la même chose à l'époque
avec LFI. Mais après, on s'est aperçu, notamment, c'est pour ça que M. Mélenchon, je pense que c'est aussi grâce à nous qu'il n'a pas réussi à avoir son poste de Premier ministre, parce que il nous l'a fait encore à l'envers avec les quartiers populaires. Il a demandé à ce qu'on le soutienne. Il a fait des accords avec certaines personnes dans les quartiers populaires. Je pense que tu le sais très bien.
Oui.
Mais il y a des choses qui n'ont pas été dites dans les grands médias, et même peut-être ici, même si je l'ai évoqué une fois. C'est que quand il a fallu choisir des gens issus des quartiers populaires avec cette étiquette NUPES, beaucoup de gens issus des quartiers populaires, des Maghrébins et des Noirs, ont été exclus parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient.
De la NUPES.
Et on a parachuté des Blancs-Blancs dans des villes populaires. Et ça, c'est scandaleux, et on ne l'a pas dit. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un recul de la part des quartiers populaires pour voter ce fameux troisième tour, et donc
quelque part conforter
le rêve de M. Mélenchon d'être Premier ministre. Donc voilà, on lui a fait payer son mensonge et son hypocrisie, et c'est souvent celle de la gauche.
Alors on se donne parfois des forces et des résultats que l'on n'a pas, mais les choses nous échappent.
De façon philosophique.
Feignons de les avoir organisées. Non, ce que je veux dire, là où je suis d'accord avec Nadia Kaya, c'est que le Parti Socialiste, pendant longtemps, n'a pas fait une place suffisante aux personnes issues, comme on dit, de la diversité, qui représente la France aujourd'hui dans sa diversité. On préférait l'entre-soi, la reproduction d'un certain nombre d'élites, et n'ont pas compris l'enjeu qui y avait à la mobilité sociale. Après, c'est une réalité. Après, je me méfie des discours qui consistent à dire que parce que on serait maghrébin ou qu'on aurait une couleur de peau un peu plus foncée que le blanc dans ce pays, on devrait le blanc dominant, on devrait absolument avoir une place réservée.
Je suis contre ça. Hein. J'ai jamais dit ça. Hein.
Ouais, mais c'est important
de
le préciser.
De ces maghrébins,
parce que il faut aussi pouvoir s'engager. Oui, qui ont des compétences, effectivement.
Ils vont souhaiter pour s'engager en tête de liste et qui ont été refusés.
Il faut s'engager. Oui, c'est vrai.
On parle de ça.
C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai vu et c'est vrai dans tous les partis. J'ai vu des personnes qui ont été propulsées candidats aux élections législatives qui n'avaient absolument aucun lien avec le territoire.
Ça, on devrait légiférer une bonne fois pour toutes.
Ça n'avait absolument aucun sens. Moi, je veux dire, on m'a proposé, par exemple, d'aller dans un territoire avec beaucoup de quartiers populaires, mais enfin, j'y suis pas issu, même si je peux me trouver une légitimité à parler de cela, parce que je porte un certain nombre de combats depuis près de 30 ans. Mais quel sens ça avait? Je n'ai pas les réseaux, en tout cas dans cette circonscription qu'on me proposait. D'autres n'ont pas eu.
Je pense que vous avez lâché le mot, l'entre-soi.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est là où le bât blesse.
Bien sûr. Mais il faut
les
aussi...
petites magouilles entre soi.
Ouais, mais il faut aussi
mais
que
c'est ça qui écœure les Français
gens,
de façon générale.
Il faut aussi que comment et le grand problème, c'est que à l'LFI comme à LREM par exemple, en fait, il y a pas de parti politique. Et c'est un, on ne sait pas véritablement qui désigne les candidats. Ce ne sont pas les comités locaux qui les choisissent, pas du tout. Vous avez une espèce de commission qui est dont on ne sait pas toujours la composition et on ne sait pas sur quoi ça se fait. Parce que voilà, le parti politique en tant que
ça manque de transparence. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais j'ai vu un certain nombre de récriminations. Aussi bien au sein de la LFI que LREM, notamment par exemple en Seine-Saint-Denis.
Ah oui,
après, moi, là où je suis gêné, c'est que souvent, ces militants qui se réclament de la diversité n'étaient pas particulièrement militants et arrivent comme un cheveu sur la soupe au moment des élections et disent « Ah, mais moi, parce que je suis issu de la diversité, je dois être candidat. »
Non,
c'est là,
ces individus existent, mais en général, ils font pas long feu.
Ouais.
Parce que sur le terrain, les gens se connaissent, et en général, ce genre aussi de posture, on
a raison
d'être pas.
C'est vrai.
Bien sûr. Mais bon, donc, on est d'accord sur la nécessité de la diversité dans ce pays, de sa représentation et de la mobilité
sociale.
Oui, mais
voilà, il y a un énorme
travail à faire.
Il est là aussi le souci dans la société française aujourd'hui à travers ce débat-là, mais aussi à travers d'autres débats. On peut parler de la sécurité, on peut parler de la politique, l'intégration, tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui ont été loupées. Je dis pas que c'est trop tard, mais comme elles ont été loupées volontairement, c'est très difficile parce qu'il y a des séquelles aujourd'hui qui vont être très difficiles à soigner. Et pour ça, il faut se mettre autour de la table, il faut avoir des gens intelligents, de gauche et de droite et d'ailleurs. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des gros doutes en politique et notamment au niveau de l'Assemblée nationale.
Messieurs, nous allons parler quand même de cette guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui inquiète, la guerre en Ukraine aussi, qui inquiète sur les livraisons, je parle, à la fois gaz et avec ce fameux statu quo concernant les céréales. Je vous pose la question, clairement, est-ce qu'on peut être inquiet ?
Ben, on a raison d'être inquiet, et puis surtout, on a raison d'être inquiet
avec le conflit qui
devant
dure.
La permanence du conflit. Évidemment, les États-Unis, une partie de l'Europe, ont envie de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est un peu compliqué, cette affaire. Il y a un moment où il faut de toute façon...
L'Ukraine a levé un million.
Oui, mais enfin, ça fait partie de la
com.
Ça fait partie de la com. Au même moment où Zelensky limoge deux de ses proches pour des raisons un peu obscures, qui tiennent sans doute...
Le responsable de sa sécurité, déjà.
Oui.
Et un des commandants en chef de son armée.
Oui.
Ah, parce qu'on parle de taupe. Taupe russe.
Oui, enfin...
C'est ce qu'il dit. Oui. On parle de taupe russe.
Oui, mais ça, il ne le dira jamais officiellement.
Il ne le dira pas officiellement.
Mais on parle au sein...
ses hommes les plus proches, vraiment, t'as deux, trois...
Moi, je
personnalité
crois que c'est
pro des taux pro-russes.
Eh ben moi, je crois que c'est pas ça du tout, mais que ce sont des personnes qui, au bout d'un moment, s'interrogent sur la nécessité d'un compromis. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait de savoir si on est proche des Russes. Non, il y a aussi des personnes qui, au sein de l'appareil qui se trouve autour de Zelensky et qui ont résisté jusqu'alors, qui se demandent quelle nature de compromis on peut passer aujourd'hui. Parce que la guerre, par essence, à un moment donné, il faut la terminer.
Bah, sauf que là,
c'est ce qui est le plus dur.
C'est ce qui est
là, elle est partie pour durer.
Oui, enfin, elle est partie pour durer.
Poutine avait dit qu'il n'était pas encore rentré en guerre.
Hein. Poutine qui dit, oui, effectivement, qu'il n'est pas encore rentré en guerre.
Oui. Il faut pas...
Mais regardez la carte. Les objectifs, voulus par les Russes...
Par Poutine.
Aujourd'hui, sont atteints.
Ils sont atteints.
Sur le déploiement. Alors, ça a coûté très cher à la Russie parce que
ils sont pas réellement atteints parce que déjà au niveau du timing, ils sont pas atteints.
Ah, au niveau du timing, voilà. Oui.
Quand
évidemment,
une opération, elle est réglée de A à Z, c'est qu'au niveau timing aussi.
D'accord. Mais
c'est pris en compte.
L'Ukraine n'a plus aucun contrôle sur l'ensemble des territoires qui se trouvent dans le Donbass. Et donc. À un moment donné, il y a un compromis qui est nécessaire. Donc la question que Adil pose, à savoir, est-ce qu'on s'inquiète pour le prix du gaz, pour le prix du blé. Oui. Alors, je rappelle que le blé, l'Ukraine est l'8e producteur.
Est-ce qu'on peut s'en passer, en gros? C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, si je vous dis, est-ce qu'on est inquiet, c'est en gros, est-ce qu'on peut s'en passer déjà, le gaz russe et le céréal ukrainien?
Si je peux me permettre, il y a eu la guerre aussi, c'est surtout une guerre des informations. On nous a fait croire au début que c'était le grenier de l'Europe. Jusqu'à preuve du contraire, l'Ukraine, c'est pas encore l'Europe, déjà, premièrement. Je ne pense pas que ce soit le grenier de l'Europe ou de cette région-là. Il y a d'autres pays. Mais on vient de dire le 8e pays, donc on ne dépend pas. C'est comme pour le gaz. À un moment donné, on nous disait qu'on dépendait en grande partie.
Il y a deux problèmes. Oui. Il y a deux problèmes. C'est que les Russes bloquent aussi leurs propres exportations. Les propres exportations des Russes sont bloquées parce que ça veut dire un tiers. En fait, un tiers des céréales aujourd'hui se trouvent bloquées.
Oui, ils sont stockés. Oui, ils sont stockés. Ils peuvent pas.
Ils sont stockés. Voilà.
Mais ça, c'est ça le vrai sujet. Tactique que Poutine a mis en place au vu de ce qui se passe, notamment en termes de réponse par rapport à ce qui se passe. Ouais. Moi, je pense que la crise va être très difficile et c'est surtout l'après-crise qui va être encore plus compliquée parce que même si on comprend pas bien ce qui se passe, c'est-à-dire le fait que c'est pas simplement l'Ukraine qui se bat contre une invasion russe, mais que c'est surtout aussi les États-Unis par derrière et même par devant, parce que ils ont quand même dit officiellement qu'ils donnaient beaucoup d'argent et des milliards et des milliards, l'Europe aussi. Donc je pense qu'il va avoir des conséquences à long terme, notamment en termes de réaction face à la Russie et ses nouveaux alliés ou ses alliés qui se rapprochent de plus en plus, c'est-à-dire l'axe indien, chinois et même saoudien.
Vous voulez nous dire que Joe Biden
Ce genre d'accord, ce genre de proximité, quand il y a une guerre, en général, il y a des conséquences, d'un côté comme de l'autre.
Ouais.
Donc ces alliances-là, soit on va les faire payer, ou soit vont être consolidées par rapport à le sujet qu'on parle, c'est-à-dire l'Ukraine et le problème avec la Russie.
Et finalement, est-ce qu'on peut être inquiet sur le gaz russe et les céréales, le blé?
Inquiet, oui et non, parce qu'il y a d'autres pays qui peuvent subvenir aux besoins de la France. Je pense que la France travaille là-dessus, notamment avec d'autres pays du Moyen-Orient, avec l'Algérie aussi. Il y a des pays du Nord aussi.
Vous parlez du Moyen-Orient. Aujourd'hui, il a reçu pour 3 jours une visite officielle d'État.
Oui.
Enfin, d'État ou pas, le MBZ.
C'est le premier pays qu'il est venu voir, c'est la France.
Des Émirats, voilà. Le premier.
Et c'est pas le fruit du hasard. Il est pas venu pour les Champs-Élysées.
Il est venu pour le gaz, pour les négociations.
Oui, pour conforter la France par rapport à ses besoins actuels.
Et puis c'est aussi de remercier la France, c'est aussi de remercier Macron, parce que Macron est venu pour le, évidemment.
Oui, tout à fait. C'est du business, donc voilà.
Pour la mort de, évidemment, Duchère.
Tout à fait.
Voilà, merci à vous deux. Merci à Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. C'était un plaisir, comme toujours. Merci, Pierre-Henri. Je vous souhaite un bel été. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs? Parce que c'était la dernière semaine de la saison. On se retrouvera à la rentrée, bien sûr, si vous êtes d'accord.
Non, mais profitez de l'instant, il est irréversible. Donc voilà, n'oubliez pas.
Faites référence au Covid.
Et vivez. Non. Je pense là à Yankelevitch, le presque rien, le je ne sais quoi. Cet instant qui est magique et que l'on ne reverra pas et qu'il faut vivre à chaque moment.
Vous avez raison. Nadir Kaya, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Je souhaite de
il est où Bilal Nedman? Tiens, j'appelle Bilal Nedman. Où est-il, Bilal Nedman? Dans les couloirs, il faut qu'il vienne annoncer son programme. Nadir Kaya, je vous écoute.
Non, moi je souhaite la santé à tout le monde déjà, premièrement, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et je souhaite que chaque Français comprenne qu'il a sa part à jouer dans son pays, c'est-à-dire à s'engager. Pas le temps d'une élection, mais de façon permanente. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on pourra, entre guillemets, croire qu'on pourra changer les choses dès l'instant où chacun peut s'investir à son niveau pour notre pays.
Le programme va être riche avec Bilal Nedman. Il va parler encore du mercato. Le Barça réalise-t-il le plus gros mercato de l'été? C'est ce qui vous attend, notamment un barrage du lourd pour Monaco. Il parle aussi d'un retour de Made in France au PSG. C'est le programme qui vous attend avec Bilal Nedman de 20h à 21h. Merci messieurs. Quant à moi, je vous souhaite un bel été. Mais surtout messieurs, prenez soin de vous. Et on ne lâche rien. À la réalisation, c'était Yanis. Exactement. Et à demain, avec autant de plaisir, on ne lâche rien les amis.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.